Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 20e de la saison, première partie. Bonjour Jacques Michaud et bonjour Michel Santo.
Bonjour Jean-Claude Jules, bonjour Jacques Michaud.
Alors Jacques Michaud, nous parlerons avec vous en fin de cette émission dans une troisième partie du Musée de la Romanité, essentiellement. Mais auparavant, il y a un sommaire classique et traditionnel que nous évoquons avec Michel Santo qui commencera par ce qu'il appelle la télépoubelle. Oui, bon, on s'en tient là pour le moment.
Cela, oui.
Restez branchés et vous saurez la suite. Après quoi, tu nous parleras, Michel, comme tu l'as évoqué sur ton blog dans la semaine, du chômage dans l'Aude. Deuxième partie, la coopération entre les métropoles, les grandes métropoles de notre région, Toulouse et Montpellier. Et nous terminerons par une note narbonnaise, comme il se doit. D'une part, l'avenir de l'aspirateur. Alors là, c'est pas l'instrument ménager, mais c'est le bâtiment.
Le bâtiment, oui.
Et nous terminerons par bien Monsieur César et son élection ratée à la présidence des Républicains dans l'Aude.
C'est cela.
Pour commencer, la télépoubelle, qu'entends-tu par là, même si l'expression est devenue très fréquente?
Oui, Jean-Claude, l'idée de ce billet m'est venue parce que dimanche dernier, je participais à un déjeuner chez deux familles et est venu dans la conversation le sujet de la station énergie et on m'a raconté des choses abominables sur certaines émissions qui étaient, bon, de mon point de vue...
Station de télévision, hein,
énergie, non, station de radio, donc, hein, de
radio, sur la radio,
venir,
hein,
des radios, qui m'a particulièrement choqué. Et je me suis rendu compte, en rentrant et en tombant par hasard sur une émission de Touche pas à mon pote, que sur la D8, hein, que la télévision n'était pas en reste, et que le sieur Hanouna était un spécialiste de ce que moi j'appelle la télé poubelle.
Oui, d'accord, hein. La même inspiration. Alors
la même inspiration. Veine, oui, alors on l'a regardé lundi dernier, et alors j'ai assisté à une scène vraiment sans précédente, quoi, dans l'histoire de l'abjection, hein, vraiment. Hein, alors il a une nouvelle recrue, cet Hanouna, que je ne connaissais pas, un nom, mais Mathieu Delormeau, qui est devenu le véritable souffre-douleur de cette émission, et on fait subir alors toutes sortes de sévices et d'avanies.
Parce que c'est la règle de base.
C'est la règle de base, voilà. C'est un bouc émissaire, mais au sens de René Girard, je ne développe pas, ça serait faire trop de philosophie.
Il est bien payé pour accepter ça?
Je ne sais pas quel est son tarif, mais il doit l'être, parce que lundi dernier, donc Hanouna a demandé à un invité de son émission de vider un bol de nouilles dans le slip de ce monsieur Delormeau en guise de gage. Alors ce Delormeau...
Mais c'est à mourir de rire, ça, Michel.
Oui, non, mais à mourir de rire, moi je ne sais pas si tu imagines la scène, hein, ce garçon Delormeau.
Et ça, c'est de la télévision.
C'est de la télévision. Il a eu beau dire non, enfin, parce que voilà, il pensait que les limites étaient dépassées de cette
parce que
ce rôle qu'il jouait.
Ça allait salir son slip.
Eh ben non,
quand même, hein.
Non, il a fini par accepter. Et il a reçu un bol de nouilles dans son slip après avoir baissé son pantalon. Hein. Alors, ce qui est choquant quand même dans cette affaire-là, c'est que voilà quand même une télévision qui normalise un comportement qui ne l'est pas, à savoir l'humiliation d'individus, devant 2 millions de téléspectateurs.
Oui, en plus,
parce que c'est 2 millions de téléspectateurs qui regardent cette émission.
Effrayant
quand même, quand on y pense, quoi. Hein. et moi, je pensais naïvement que la télévision ne devait pas pouvoir se permettre de se vautrer dans ce type de bassesse. Bien non, j'ai constaté, et cela se passe pas toutes les semaines, qu'elle continuait effectivement à produire ce genre de spectacle particulièrement honteux. La conclusion de tout cela, quand même, c'est Jean-Claude, c'est que l'audience, elle protège de tout, y compris du devoir de ne pas dépasser les bornes.
Oui.
J'insiste encore une fois, la preuve, 2 millions de téléspectateurs.
Et pourtant, il y a un CSA, un Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est censé veiller à la bienséance et à la déontologie.
C'est la question que je me suis posée, et pas moi seulement d'ailleurs, hein, le nombre de lecteurs de mon blog qui ont réagi sur les réseaux sociaux et sur Facebook, notamment en se posant la même question que tu viens de me poser.
Ben oui.
Mais que fait le CFA?
Le CFA
apparemment ne fait rien.
Il
semblerait que ce soit dans la normalité, effectivement, de notre production audiovisuelle et radiophonique, puisque je citais la chaîne Énergie qui, paraît-il, d'après mon fils et cette classe d'âge-là, produit ce genre d'émission aussi régulièrement.
Et fait un tabac.
Après, l'on s'étonne que dans les cours d'école.
L'exemple soit suivi.
Que dans les cours d'école, les exemples soient suivis et que sur les réseaux sociaux, en fait, certaines personnes soient victimes de harcèlement moral et particulièrement humiliant, comme elles peuvent le constater pratiquement toutes les semaines en regardant ce genre d'émission.
Oui, oui. Mais sur les réseaux sociaux, on peut davantage le comprendre structurellement puisque c'est difficile à les contrôler. Alors que les médias, les télévisions, les radios, comme celle-ci, comme la nôtre, beaucoup plus modeste, mais qui est quand même sous la tutelle du CSA, elle est contrôlable.
Bien sûr.
Et si on ne respecte pas les règles, une fréquence, ça se retire.
Mais oui, mais apparemment, cela ne se pratique pas. Alors, certains m'ont fait la remarque, mais attendez, c'est de la grosse blague. Et après tout, les parents sont là pour empêcher les enfants ou les adolescents de regarder leur télévision. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, mais tout le monde le sait, dans les familles modernes, il y a des télévisions pratiquement dans toutes les pièces. Voilà. Et les enfants regardent ce genre d'émission sur leur smartphone, en fait, ou sur leur tablette. Donc, et indépendamment de ce fait de génération, en fait, et ce fait social, bien connu de tout le monde, il n'empêche, il y a des bornes à ne pas dépasser, de mon point de vue, en matière audiovisuelle, des bornes qui, dépassées, produisent des résultats et des comportements, chez les jeunes notamment, particulièrement condamnables.
Oui, triste spectacle et surtout triste exemple. Deuxième sujet, le chômage dans l'Aude. Alors, c'est un sujet récurrent.
Oui, on n'en a pas parlé la dernière fois. La presse, d'ailleurs, en a très peu parlé non plus, me semble-t-il. Mais voilà, on a maintenant les chiffres officiels de l'année 2015. Et dans notre département, malheureusement, comme chaque année depuis de nombreuses années, la courbe du chômage, loin de s'inverser, continue effectivement sa trajectoire montante et non pas descendante. Puisqu'en 2015, si on s'en tient aux seuls demandeurs d'emploi qui n'ont exercé aucune activité,
ce qu'on appelle catégorie A,
le chômage a augmenté de 1% sur un an. Et si l'on prend en fait l'ensemble des catégories, c'est-à-dire y compris les chômeurs qui ont exercé une activité pendant le mois, effectivement, où ils étaient inscrits à Pôle emploi, le chômage dans notre département a augmenté de 4,4% sur un an. Alors, avec des petites notations qui montrent comment est structurée cette population de demandeurs d'emploi dans notre département, pour les jeunes qui ont bénéficié à plein
des programmes emplois
aidés, civiques, etc., quasi stagnation du nombre de demandeurs d'emploi.
Malgré les emplois aidés.
Et par contre, dans la catégorie des 25 et 49 ans, qui est, la catégorie la plus, active, le chômage, lui, a augmenté de 4,6%, avec une plus forte progression chez les hommes que chez les femmes. Et enfin, dernière catégorie d'âge, les 50 ans et plus, là c'est la cata, plus 0,9% d'augmentation. Avec là, dans les femmes, une augmentation de 7%. Donc on a une structure en fait de demandeurs d'emploi, qui plus est, indépendamment de ce que je disais tout à l'heure sur l'augmentation du chômage, on a une structure qui place cette catégorie des 25-49, qui est le cœur quand même de cible, le cœur de la population active, dans une situation particulièrement dramatique. Alors, ce qui me permet de faire une petite digression, si tu permets,
Jean-Claude. Parce que tout ça est assez désespérant.
C'est finalement assez désespérant, et il faut constater que dans notre région, de manière générale, y compris la grande région d'ailleurs, et notre département en particulier, qui détient le record de France en la matière,
ça fait partie des quelques départements,
force est de constater que depuis pratiquement plus de 25 et 30 ans, que les politiques à la tête des institutions régionales, départementales, communautés d'agglomération et communes, qui ne cessent pendant leurs campagnes électorales et une fois au pouvoir de dire que leur priorité sera l'emploi, force est de constater que malgré leur dire et malgré leurs propositions, l'emploi en question effectivement n'évolue pas, sauf à la hausse. Ce qui me permet au passage de faire passer un message à ces politiques, si tant est qu'ils m'entendent, c'est que contrairement d'affirmer ce genre d'objectif, je vais développer l'emploi, je vais tout faire pour développer l'emploi, qui n'est pas dans la compétence de ces dites collectivités. Les dites collectivités en question peuvent au mieux travailler et améliorer l'environnement qui permettra
indirectement,
mais elles ne sont pas en elles-mêmes source de création d'emplois.
Sinon d'embaucher
des fonctionnaires, ce qui n'est pas forcément une bonne manière de permettre à cet environnement-là d'être le plus productif possible, attractif possible pour les entreprises. Donc, plutôt que de laisser croire, encore une fois aux électeurs, qu'ils vont créer de l'emploi et donc susciter en eux l'espérance qu'ils le feront.
Une fausse espérance, forcément.
Une fausse espérance, hein, dire les choses comme elles sont, hein, dire les actions qu'ils vont faire et qui vont peut-être permettre d'améliorer l'environnement des entreprises, mais qu'ils cessent de dire effectivement ce qui ne se fait pas et ne peut pas se faire par eux-mêmes directement, à savoir créer de l'emploi.
Voilà, mais là, ça serait leur demander de reconnaître, de faire un aveu d'impuissance. Et ça, c'est peut-être beaucoup demandé.
Oui, un aveu d'impuissance sur cet objectif-là, mais pas un aveu d'impuissance sur leurs propres compétences qui peuvent permettre, effectivement, si elles sont bien assumées, d'améliorer l'environnement de l'entreprise qui permettra de créer de l'emploi.
Voilà.
Et là, est le véritable message à faire passer.
Voilà. Et là, de ce côté-là, il y a un espoir à garder.
Exactement.
On marque une première pause.